France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série consacrée à la notion d'engagement. Aujourd'hui, l'engagement et le risque de la pensée captive, expression du philosophe Jean Toussaint de Santy. Philosophe français, né en 1914 et mort en 2002, Jean Toussaint de Santy a été membre du Parti communiste français jusqu'en 1956. Plus tard, en 1982, répondant à une demande de Maurice Clavel, qui ne verra pas le livre fini, de Santy a publié chez Grasset « Un destin philosophique », livre où il revient sur ses années au parti, aveugle à tout ce qui pouvait défier sa foi dans les bienfaits du stalinisme lui-même. Les articles de Santy pour la revue du Parti communiste « La Nouvelle Critique » ont été publiés après sa mort aux presses universitaires de France, sous un titre qui était celui du dernier chapitre d'un destin philosophique, une pensée captive. Dans ce volume, on trouve aussi un entretien avec son épouse Dominique datant de 1975. De Santy, il raconte que même le rapport Khrouchtchev de février 1956, mettant en cause Staline, ses purges contre les opposants et le culte de la personnalité, n'a pas agi sur lui immédiatement tant il était enfoncé dans sa captivité de pensée. Il évoque un autre ami philosophe, comme lui sorti plus tard du parti, qui lui avait dit « ça ne peut être vrai, parce que si ça l'était, ma vie, nos vies, perdraient leur sens ». La pensée captive, telle que la définit Jean Toussaint de Santy, est un risque majeur, présent presque toujours lorsqu'on s'engage dans des collectifs où, insidieusement, l'attitude critique risque de s'anesthésier. Même si ce matin, nous parlerons d'un cas extrême, la relation aussi stalinien Parti communiste français. Comment sortir du piège? Comment parvient-on à émerger un jour en prononçant un refus, un non, comme celui de Merleau-Ponty et de Claude Lefort face à Sartre dans la revue Les Temps modernes? Comment s'est passé pour Charlotte Delbault, par exemple, résistante communiste, revenue d'un camp nazi, la prise de conscience que le stalinisme aussi, ce n'était plus possible? Bonjour Anna Trepeuch-Barthelot, est-ce que j'écorche votre nom ou ça va? Trepeuch-Barthelot, bonjour, je ne veux vraiment pas...
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Caen-Normandie, spécialiste des intellectuels du XXe siècle et de leurs engagements politiques. Vos recherches ont notamment porté sur le couple Jean Toussaint de Santy et Dominique de Santy. Bonjour Violaine Gély.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et psychopraticienne, vous avez publié chez Fayard une biographie de Charlotte Delbault, c'était en 2017, et cette biographie était coécrite avec Paul Gradvaul. Et bonjour Martin Legros.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Philosophie Magazine, dont nous saluons par ailleurs le dernier numéro spécial sur Hannah Arendt, et attendons le prochain numéro la semaine prochaine, consacré à l'engagement. Décidément, ça nous perturbe en ce moment, cette question. Vous connaissez très bien la querelle et toutes ses péripéties dans les années 1950 au temps moderne, entre Sartre et face à lui Merleau-Ponty et Lefort. Mais tout de suite, Jean Toussaint de Santy.
Au fond, ce qui était décisif dans toute cette affaire d'adhésion au parti et à travers le parti, de constitution de cette conception globale du monde qu'on appelait marxisme, c'est ce que j'ai appelé à un moment la région d'adhérence, c'est-à-dire le point au voisinage du sujet qui vit cela, c'est-à-dire au voisinage des autres, au voisinage de ce qu'il a à faire, au voisinage de sa vie militante, etc. Ce qui est au plus près de ce sujet agissant et sentant se constitue comme rassemblant tous les fonds symboliques qui ont constitué son histoire. C'est cette région d'adhérence qui compte. Tant que cette conception globale du monde s'articule sur cette région d'adhérence, la nourrit et la renforce, tout va pour le mieux. Le sujet ne s'interrogera jamais sur le degré de rationalité qu'il convient d'attribuer à sa conception du monde. Elle ira de soi, que par suite de circonstances, c'est-à-dire de signaux qui viennent du monde, qui viennent de l'environnement, cette région d'adhérence vient à manquer qu'elle vienne à se casser. Et alors la conception du monde flotte. Elle devient comme une autre. Il se trouve vide. Mais c'est un vide salutaire. Parce que finalement, ce qu'on appelle l'engagement politique qui compte, l'engagement politique qui compromet le sujet engagé dans son être même, il me semble qu'il ne peut vraiment se constituer que si le sujet, à un moment donné de sa vie, a éprouvé ce vide.
C'était le philosophe français Jean Toussaint de Santi en 1982 dans l'émission Agora sur France Culture. Vous en êtes une des spécialistes, si j'ose dire. Vous connaissez sa vie et son œuvre, Anna Trespech-Berthelot. Dans son, le sous-titre du livre Un destin philosophique qu'il a publié, le sous-titre est Les pièges de la croyance. Et là, il parle, dans ce qu'on vient d'entendre, de régions d'adhérence. Expliquez-nous.
Oui, ce qui est intéressant, c'est chez Jean Toussaint de Santi, son retour sur expérience et cette réflexion qu'il mène au début des années 1980 sur le processus qu'il a engagé vers le dogmatisme. Et il explique notamment qu'en 1954, Merleau-Ponty, dont il est proche, qui a été présent à son mariage en 1938, un mariage en petit comité, qui a été donc
son ami,
durant et ils ont résisté ensemble sous l'occupation. En 1954, Maurice Merleau-Ponty l'apostrophe en lui disant « Je suis sûr que ce que tu écris, tu n'en penses pas un mot. » Et Jean Toussaint de Santi lui répond « Ce que je pense, c'est mon affaire, mais ce qui importe, c'est que l'on pense ce qu'il convient de penser. » Et donc il décortique ce régime de double pensée dans Un destin philosophique en 1982 en essayant de comprendre ce qu'il appelle quand même une souffrance dans un autre témoignage rétrospectif, La liberté nous aime encore, qui sera publié quelques mois après sa mort, qui est un témoignage en dialogue avec son épouse Dominique de Santi. Et donc il revient sur ce qui a provoqué cet engagement politique et il insiste beaucoup sur le fait que l'adhésion au Parti communiste français s'est faite sous l'occupation dans un régime de semi-clandestinité.
Je crois quand même qu'il faut qu'on repose deux, trois choses historiques. Le Parti communiste français est comme gelé au début par le pacte germano-soviétique. Molotov-Ribbentrop, a priori Staline s'est allié à Hitler. Et puis, évidemment, ça va changer avec l'invasion de l'Union soviétique par Hitler. Peut-être qu'il ne faut pas confondre, et d'ailleurs c'est une question que je vous poserai à tous ici, les communistes, ceux qui avaient une sensibilité communiste, un engagement, une conviction communiste, dont certains ont été meurtris par ce pacte et n'ont pas cessé d'être contre ce pacte, peut-être qu'il faut cesser de confondre les communistes de cette sorte et le Parti communiste français. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, tout à fait. Dans la trajectoire de Jean Toussaint de Santi, il y a une sensibilité marxiste qui est flottante dans les années 1930 lorsqu'il est étudiant à l'ENS. Il dit de lui-même qu'il est... qu'il s'intéresse, qu'il assiste à des conférences du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, parce que finalement c'est l'antifascisme qui fédère ses sensibilités de gauche, mais qu'il Il est tantôt communiste, tantôt trotskiste, ce qu'il d'ailleurs gommera au moment de son adhésion au Parti communiste. Et donc, oui, en effet, ce pacte germano-soviétique d'août 39, déçoit considérablement le jeune philosophe qu'il est, mais comme il dit et comme ce couple le dit, Stalingrad a tout à laver finalement.
Là on est en 42. Oui. Stalingrad c'est en 42. Mm-hmm. Et l'ensemble de ces combats
Mais leur adhésion date de 43. Donc, leur adhésion formelle au Parti communiste date de 1943.
Mm-hmm. Voilà. Donc, ce que je voudrais juste vous demander, parce qu'il y a des communistes qui ont été meurtris par le pacte germano-soviétique, qui sont entrés en résistance tout de suite, en France occupée, des 40, des 41 notamment. Il y a eu des attentats de gens qui avaient une évidente sensibilité communiste, qui se moquaient de savoir ce que pensaient
et
ce que
faisaient. Enfin, c'est le cas de Dessanti.
Est-ce que c'est le cas?
Bien sûr.
Et quand vous dites résistant, alors, même pour Merleau-Ponty, c'est un mot... Enfin, il y a des mouvements de résistance plus ou moins importants. Je fais partie, comme vous, je pense, des gens qui pensent qu'il peut y avoir aussi une résistance intérieure sans trop avoir l'arme à la main, même si on peut discuter, réfléchir. Mais quand même, c'est un qualificatif qu'il faut peut-être utiliser avec soin. De Merleau-Ponty, alors je vais demander peut-être à Martin Legros, qui connaît. Est-ce qu'on peut dire que Merleau-Ponty était un résistant, dans un mouvement de résistance, au même titre
On ne peut pas le dire, d'autant que lui n'a jamais dit. Lui a toujours dit qu'il n'avait pas fait partie d'un vrai mouvement de résistance, même si, comme vous dites, il a résisté sans doute de l'intérieur. Pendant la guerre, il a fait sa thèse, La structure du comportement, et il a publié après la guerre, son grand livre... La phénoménologie de la perception, ces deux thèses. Il n'empêche qu'il était de notoriété, qu'il était quand même proche des résistants, que voilà, il avait le sentiment qu'intellectuellement, il défendait ce camp-là. Mais lui n'a jamais prétendu avoir été un résistant, à ma connaissance.
D'accord. Et Dessanti, avant 42-43, avant Stalingrad, avant le combat si coûteux en hommes de l'URSS face au nazisme, il en est où, lui?
Jean Toussaint Dessanti est mobilisé durant la drôle de guerre, donc il combat et en septembre 1940, il est de retour à Paris et avec Merleau-Ponty, avec François Cuzin, avec Yvonne Picard, Simone Debout, ils ont... la volonté de faire quelque chose
ce qu'il se pense... pas au PC, moi je crois qu'il était entré la fin des années 30.
Pas du tout. Non. C'est un électron libre.
Jusqu'à quand il entre quand alors au Parti communiste?
En 1943, début 1943, d'accord. Alors par son engagement au Front National pour la libération,
qui à l'époque signifiait la résistance communiste. Bon, ça c'est l'ironie des appellations.
Qui est le soutien logistique aux francs-tireurs et partisans. Donc, en 1940, il monte un petit groupe qu'il baptise le ZOO et il rédige une feuille qui s'intitule « Sous la botte », qu'il prenne le risque de distribuer à la sortie du métro. Et donc, c'est une première forme de résistance intellectuelle.
Oui.
Et un an plus tard, quand Sartre revient de son camp de prisonniers, et donc Merleau-Ponty est associé au ZOO, et de nouveau, le ZOO, il se baptise
parce que vous voyez bien que les mots en radio, c'est un peu troublant.
Je n'ai plus la raison exacte.
C'est un acronyme, d'accord.
Donc en 1941, avec Sartre, il rédige un petit journal, Socialisme et Liberté, que de nouveau, ils impriment, c'est Dominique Dessanti qui son épouse qui le tape à la machine. Ils utilisent les machines de reproduction dans les sous-sols de l'ENS, et ils vont distribuer Socialisme et Liberté à la sortie du métro et dans les usines aussi de la banlieue parisienne. Et ce journal est l'éditorial du journal est tantôt réalisé par Sartre, tantôt par Jean Toussaint de Santy, tantôt par Merleau-Ponty. Et voilà, pendant quelques mois, ça prend cette forme-là.
Parlons de Charlotte Delbault, si vous le voulez bien. Violaine Gély, vous êtes une de ses biographes. Comment Charlotte Delbault rencontre-t-elle le communisme ?
Alors, elle rencontre le communisme dans les années 33, 34, elle a 20 ans. C'est une jeune secrétaire et elle se fait draguer un jour sur le boulevard Saint-Michel par un jeune homme un peu fou qui s'avère être Henri Lefebvre. Et ils deviennent amis.
Qui est un philosophe qui a vraiment introduit beaucoup de choses autour du marxisme en France. On en a parlé dans la première émission avec Norbert Guterman, Georges Pulitzer, etc.
Donc voilà, Henri Lefebvre l'entraîne sur les bancs de l'Université populaire où effectivement elle écoute Pulitzer, elle écoute Jacques Decour, elle écoute Paul Nizan, enseigner à tous ces jeunes travailleurs, puisque c'était université populaire et non pas étudiante. Et elle y rencontre son mari, Georges Dudac, qui lui va devenir un permanent du parti. Donc ces deux jeunes gens-là vont militer, elle sera jamais membre du PC, mais elle l'accompagnera, elle sera dès toutes les grèves de 1936, elle rejoint l'UJFF, l'Union des jeunes femmes de France, avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, Daniel Casanova. Donc voilà, elle c'est donc une c'est, militante oui. De base, on va dire.
Elle est d'une famille d'immigrants ou d'immigrés italiens, ouvriers.
Ouvrier, absolument. Son père était ouvrier métallurgiste.
Donc, comme elle a été déportée à Auschwitz, je vais tout de suite préciser, elle n'a pas été déportée comme juive, mais comme résistante, et dans un camp de concentration, qui a plusieurs camps, en fait, dans Auschwitz. Est-ce que vous pourriez nous dire si, très tôt, c'était une communiste fervente avant la guerre, c'était une communiste pleine de doutes, c'était une communiste, ce sont des questions, je mets des points d'interrogation, aussi, c'était une communiste proche de Louis Jouvet.
Alors, c'était sa quand, secrétaire, oui.
Sa secrétaire. Donc avec l'idée d'un art, d'un théâtre au service de tous. Enfin, quel était le communisme de Charlotte Delbault ?
Alors c'était un communiste effectivement très, j'allais dire littéraire, mais en tout cas d'un humanisme qui passe par la culture, le théâtre accessible à tous. Voilà, elle venait de ce milieu-là et elle l'a défendu constamment dans son travail et dans son militantisme. Elle était aussi proche par son mari de cadre communiste, et en même temps elle fait partie de ces communistes dont vous parliez pour qui le pacte germano-soviétique est tombé comme une, voilà, elle n'a jamais compris.
Qu'est-ce qu'elle a fait alors?
Alors, n'eût été son mari, je pense qu'elle aurait rompu, sauf que voilà, elle aimait son mari et donc elle est restée, et elle le dit dans ses œuvres, hein, et elle dit et je suis restée quand même. Et elle a rejoint la résistance. Elle a rejoint la résistance quand le Parti communiste a été interdit. Ils sont rentrés tous les deux dans le réseau Pulitzer et ils ont été arrêtés tous les deux en mars 42. Lui étant fusillé au Mont Valérien 2 mois plus tard et elle donc déportée à Auschwitz.
Et à ce moment-là, vous diriez que déjà le pacte germano-soviétique, si j'ose dire, l'avait un peu vacciné. Il va y avoir des problèmes avec l'adhésion exigée par le PCF, l'adhésion au stalinisme. Est-ce que quelque chose couvait déjà? Et d'après vous, est-ce que ce camp de femmes à Auschwitz, camp de concentration, l'a changé radicalement ou n'a fait qu'approfondir des doutes intellectuels, des exigences d'autres sortes qui allaient rendre problématique son adhésion au parti après la guerre?
Je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle n'a jamais compris le pacte germano-soviétique et quoi qu'on ait pu lui expliquer, elle n'en a jamais compris le sens. Et puis elle a été déportée dans un convoi de politique, de résistante, essentiellement communiste, pas que, mais essentiellement communiste, et surtout avec les têtes de pont, les chefs de file plutôt du mouvement communiste féminin. Et comme vous le savez, à Auschwitz, il y avait une résistance communiste à l'intérieur du camp, et du coup, elle a vu en tant que déportée comment la résistance communiste pouvait privilégier les militants, mais comment elle avait tendance à plutôt privilégier les cadres, et elle a entendu, elle le raconte, hein, que Marie-Claude Vaillant-Couturier disant « il faut qu'on privilégie les cadres, les militantes, on en aura toujours ». Donc, il y a eu quelque chose quand même qui s'est aussi brisé dans cette fraternité, enfin, sororité en l'occurrence, à laquelle elle participait depuis l'UJFF, depuis l'Union des Jeunes Femmes de France.
Quand elle rentre, elle travaille encore pour Jouvet ?
Un tout petit peu. Elle travaille pour Jouvet 6-8 mois et puis elle n'arrive pas à tenir. Elle rentre évidemment très abîmée.
J'ai lu de ces 24 mois de déportation. Ces dernières années, on a publié, republié, retrouvé d'autres textes d'elle, Charlotte Delbault. J'avais lu à cette occasion qu'elle avait tenté d'expliquer à Jouvet ce qu'avait été le camp de concentration et que Louis Jouvet, ça ne l'intéressait pas beaucoup.
Non, comme beaucoup à l'époque. Ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était qu'elle était rentrée. Et jugeait-il qu'elle était rentrée d'abord vivante et puis surtout prête à retravailler, comme si ça avait été une parenthèse due à la guerre. Jouvet a passé la guerre en Amérique latine. Hein. Il n'était pas présent sur le territoire français. Et donc, non, peu ont compris. C'est pour ça qu'elle a écrit tout de suite, mais qu'elle a publié 20 ans plus tard.
Le communisme, ça a quand même été... Il n'y a personne, je crois, de la résistance communiste au Panthéon. On parle beaucoup des résistants, mais enfin, ça a été une branche très importante de la résistance, française notamment. Et comme il y avait Staline derrière, bon, qui a quand même fini par être dans le camp des Alliés, il y a parfois une difficulté, je trouve, en France, à rendre l'hommage que l'on doit aux communistes. Par-delà ce problème de 39, pas que germano-soviétique, mais après, enfin franchement, c'est très important, la résistance communiste. Ce qui est troublant avec Delbault, c'est qu'elle est dans ce camp des combattants du nazisme. Des combattants, je répète, très importants. Et elle sort d'un camp de concentration où elle est internée comme telle, résistante communiste. Et en fait, c'est le communisme lui-même, le stalinisme à l'époque, mais pour elle, ça ne va plus. C'est troublant. J'aimerais que vous m'expliquiez ça.
Alors, c'est pas troublant tout de suite. C'est troublant, évidemment, après la mort de Staline et le rapport Khrouchtchev. Alors déjà, la mort de Staline l'avait un peu... Elle dit qu'elle a pleuré à la mort de Staline, l'homme, parce que c'était... Quand même, c'était une idole pour les jeunes gens comme elle qui étaient communistes dans les années 30. Donc, elle pleure la mort de l'homme. Et puis, arrive le rapport Khrouchtchev.
Donc, février 1956.
Voilà. Et là, elle y croit, elle y croit pas. Elle y croit profondément. Et en même temps, elle a besoin de voir. Donc, elle va en URSS. Elle va en URSS en 1959. Et là, tout tombe. C'est-à-dire que là, elle rencontre des Russes. Et elle réalise qu'effectivement, ils et elle pensaient tous au sortir d'Auschwitz que plus jamais ça, leur témoignage servirait à ce que ça n'existe plus. Et non seulement ça existait, mais ça existait encore.
Elle n'en savait rien avant que tout cela existait, franchement.
Elle dit qu'elle n'y croyait pas.
Ah, elle n'y croyait pas. C'est pas la même chose que la question de la croyance avec De Sautis, dont nous allons parler. C'est très important. La croyance, c'est une protection extraordinaire face à la réalité. J'aimerais qu'on écoute un texte de Charlotte Delbault, alors sortie complètement du Parti communiste, effrayée, remettant en question tout, jusqu'à Lénine, jusqu'à l'ensemble de l'histoire du communisme soviétique. Un métro nommé Lénine, c'est le titre du manuscrit de 1959. Voici un extrait.
Le discours de Khrouchtchev parlait bien des camps de concentration et des déportations de masse. Cela aurait dû me faire imaginer la terreur policière, la délation, la peur. Autre chose est d'imaginer et d'entendre ensuite les gens qui l'ont vécu vous le raconter. Autre chose est d'imaginer et de voir, 6 ans après la mort de Staline, que les amis moscovites ne vous raccompagnent le soir qu'à 100 mètres de votre hôtel. On n'a pas cru toute sa vie à quelque chose pour accepter ensuite aisément que rien de ce qu'on croyait n'était vrai. Hélas, j'en ai la certitude maintenant. Rien n'est vrai. Pendant des années, j'ai refusé d'entendre sur l'URSS tout autre son de cloche que celui donné par l'Humanité. J'ai insulté David Rousset, qui parlait de camps en Union soviétique. J'étais persuadée qu'on édifiait le socialisme en URSS, durement, péniblement, à partir de rien d'autre que la volonté et l'enthousiasme d'un peuple qui préférait se passer de tout que de devoir aux impérialistes. Voilà l'image héroïque et pure que je me faisais de l'édification du socialisme en URSS. J'étais d'une incroyable naïveté. Si chacun avait apporté sa goutte de vérité et n'avait pas attendu le moment de la verser, aujourd'hui nous ne serions pas des milliers à nous dire que nous avons lutté pour quelque chose qui n'existait pas, que nous avons cru à un fantôme, le fantôme de nos espoirs, le socialisme triomphant sur un sixième du globe. La plus grande mystification que l'histoire ait connue, la plus grande aliénation dont l'homme ait été victime.
Vous savez bien, Vionnette Joly, j'ai lu qu'on dit souvent que les convertis viennent radicaux. Et là, elle est convertie à l'anticommunisme. Et elle est peut-être devenue vraiment, mais alors radicalement anticommuniste, une aliénation, le socialisme est une aliénation, etc.
Ce texte-là se poursuit un peu et se termine par une très jolie phrase, je trouve, qui dit « Les champs glacés de la Colima nous brisent le cœur ». C'est-à-dire qu'il y a
c'est pas le socialisme, la Colima, si.
C'est
pas l'idée socialiste.
C'est pas l'idée socialiste, c'est le stalinisme. Mais il faut entendre aussi cette identification entre elles et les déportés du goulag, c'est-à-dire que vraiment ce qu'elles ont vécu, ce qu'ils ont vécu à Auschwitz, c'est la même chose, elle le dit.
Alors ça, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que je sais pas, peut-être comme nos auditeurs, à la fois je comprends et je ne comprends pas tout à fait, ça m'intéresse. C'est-à-dire, là-bas, elle a vu à Auschwitz, dans un camp de concentration, précisons-le, c'est pas Birkenau,
non.
Elle a vu des femmes du parti continuent à raisonner, d'après ce que vous m'avez dit, un peu comme au
en
parti.
En cadre du parti, oui.
C'est-à-dire
discipline à la ligne. Évidemment, ce dont parlait Delbo, c'est-à-dire privilège pour les cadres, mais aussi solidarité, sororité. Il y a les deux, c'est toute cette ambivalence-là
donc
qui est difficile pour Delbo.
Perdue.
Elle sort perdue.
Mais elle ne rompt pas là. Moi, je croyais qu'elle avait rompu bien plus tôt.
En fait, elle ne rompt jamais officiellement.
Et c'est quand elle se rend compte qu'il y a des camps en Union soviétique, que quelque chose, d'après ce que vous dites, se passe en elle.
Je crois qu'à ce moment-là, bon là j'extrapole, hein, je ne suis pas dans la tête de Delbo, mais je crois qu'à ce moment-là, elle s'est vraiment identifiée aux prisonniers politiques soviétiques.
Le camp, c'est la figure du camp.
C'est la figure du camp, absolument.
Oui.
Et tout ce qui y est lié, c'est-à-dire les coups, la faim, la mort permanente, parce que c'est vrai qu'elles étaient beaucoup plus privilégiées que, évidemment, les convois de femmes juives qui arrivaient directement au camp d'extermination. Mais quand même, 24 mois de déportation à Auschwitz, ça a été, elles ne sont rentrées qu'à 49 sur 230. Donc, elle a vécu tout ça. Elle a vécu. Et je pense qu'il y a vraiment une identification à la personne du déporté.
Anna Trespech-Berthelot, vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, des intellectuels français de la deuxième moitié du XXe siècle, leurs engagements, etc. Et nous parlions donc avec vous de Jean Toussaint de Santy, qui a après coup dit qu'il avait été dans le communisme, le parti communiste français, dans une pensée captive. La guerre, l'ouverture de toutes les sortes de camps en 45, ça ne l'a pas changé. Il vient juste d'adhérer, m'avez-vous dit tout à l'heure, en 43. Il ne se dit pas, tiens, le stalinisme aussi, parce que bon, les camps staliniens, il y en avait depuis un bon moment déjà. Et le goulag ne s'est pas déclenché comme ça dans les années 1950. Est-ce que cette question-là, du traitement des humains, dans des régimes certes très différents, le tourmentait.
Moi, je pense que en 1945, Il n'y a pas du tout d'analogie entre ce qui s'est passé dans les camps d'extermination national-socialiste.
On parle concentration. Là, on me laisse de côté l'extermination. Voilà.
Mais je pense qu'il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout d'analogie, je dirais, dans les médias. Sous couvert de recherche, avec ce qui, avec le régime totalitaire soviétique. Dominique de Santi est reporter au moment de la libération des camps, donc il est bien placé pour savoir ce qui s'y est déroulé. Mais en 1945, il est déjà dans un processus d'idéologue de parti. Hein. C'est vraiment le moment, il est à 44-45... Il est à Clermont-Ferrand et il fait les sorties d'usine pour porter la bonne parole du Parti communiste en se disant que c'est temporaire qu'il le fait parce que en effet le Parti communiste est au pouvoir et qu'il y a un espoir de prise de pouvoir et d'avènement d'un régime socialiste en France.
Je ne veux pas vous couper. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je voudrais peut-être revenir sur, mais peut-être on le fera un autre moment, sur les raisons qui le poussent à adhérer au Parti communiste.
Allez-y.
Ce dont j'ai parlé, sous la botte, socialisme et liberté, c'est un engagement patriote en fait, hein, et c'est ce qu'il explique a posteriori. Il s'agit de défendre les intérêts de la France sous l'occupation. Il explique également la part de ce qu'il appelle le parti pris éthique dans Un destin philosophique en 1982, et il raconte cet événement marquant qui a été pour lui ce qu'on a identifié plus tard, hein, les historiens l'ont identifié sous le nom de rafle du Veldiv. Hein, en juillet 1942, il se trouve que il est corse, qu'il a quelqu'un de son réseau à la préfecture de police de Paris, et il est informé qu'il va y avoir une rafle. Et concrètement, il va dans le quartier du Marais, autour de la rue des Rosiers, il frappe à la porte des appartements, et il enjoint les parents, les foyers de trouver un refuge. Et les personnes lui disent oui, mais moi je n'ai pas de refuge, ou enfin voilà. Donc il y a une forme d'incrédulité face à son alarme, et surtout il décrit une scène, donc après la rafle, sur la place du Panthéon, où il découvre des enfants juifs assis et encadrés par la police française. Et pour lui, ça a été ce qu'il appelle un signal. Et il explique que l'engagement politique, justement, vient au moment où on ne supporte plus de vivre sa différence comme une protection. C'est ce qu'il explique, à savoir, voilà, il dit, je n'étais ni enfant, je n'étais ni juif, et pourtant, j'ai vécu cet impératif d'engagement, en ne supportant pas cette injustice.
Donc
cette
pour lui, la résistance, on a bien entendu, pour d'autres, elle n'a pas pris la forme du communisme. Pour lui, elle a pris cette forme-là. Et c'est très important de rappeler que pour beaucoup de gens, le communisme, pendant la guerre, a été une manière de résister, et de résister d'ailleurs assez efficacement. Ce sont des réseaux qui ont beaucoup œuvré. Martin Le Gros, il n'y a pas beaucoup de gens en ce moment qui connaissent Jean Toussaint de Santi. Vous faites partie de ces philosophes qui vous avez approché cette œuvre. Peut-être aussi des auditeurs ne savent pas que vous êtes le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, mais vous avez beaucoup travaillé sur Claude Lefort, qui plus tard sera une figure, un philosophe majeur pour penser les horreurs du stalinisme, le totalitarisme, qui a été impliqué dans la querelle contre Sartre au temps moderne, aux côtés de Merleau-Ponty au début des années 50, vous allez nous raconter. Mais il y a une phrase de De Santi, qui connaissait donc Merleau-Ponty, que je voudrais vous citer, qui sera, je crois, une belle transition. Dans l'entretien qu'il a donné à sa propre épouse, Dominique De Santi, il évoque le poids du parti. Le poids du parti qui empêchait d'imaginer que le parti puisse avoir tort après la guerre. Et il dit, à un moment donné, il dit « Nous ne pouvions pas nous dire, nous les camarades, ils se trompent au parti. Nous devions, nous nous sommes dit alors, nous nous trompons. » C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a cette pensée, c'est ça la pensée captive, on se dit « ils se trompent ». Non, c'est nous qui devons nous tromper. Je vous écoute.
Oui, c'est une belle formule qui dit bien le fait que ce qui est intéressant chez les philosophes dans leurs égarements, parce que quand même De Santi, le couple De Santi est allé très loin dans les couleuvres qu'ils ont avalées, les mensonges ils savaient que c'était des mensonges, qui l'exclusion de toute une série de camarades dont ils savaient qu'ils étaient absolument pas des traîtres à la cause. Donc ils sont allés très loin. Mais ce qui est intéressant, je dirais plus intéressant que chez les autres, mais chez les philosophes, c'est que ils essaient de rationaliser et de comprendre la manière dont on peut se rendre captif d'une organisation, captif d'une vision de l'histoire, captif d'une croyance meurtrière. Et je crois d'ailleurs la formule de la pensée captive, elle vient d'un écrivain, Miloš, qui a écrit un très beau texte là-dessus. Mais quand il dit De Santi, nous trompions, il dit bien la dimension active de la chose. C'est-à-dire que il fallait, pour que la pensée avale toutes ces couleuvres, etc., il y avait une sorte de production intellectuelle pour essayer de reconstruire l'histoire, pour essayer d'absorber les événements, parce qu'il y en avait beaucoup, des événements dans les années 50. Vous disiez sur les camps, excusez-moi, mais la littérature quand même, David Rousset par exemple, il faisait explicitement très très tôt l'analogie entre les camps soviétiques et les camps de l'Allemagne nazie. Margaret Burbernormann, on n'a pas voulu entendre son témoignage, etc. Donc les témoignages remontaient dans ces années-là, étaient remontés. Et d'ailleurs, au temps moderne, entre Sartre et Merleau-Ponty, la question des camps a été un des éléments déclencheurs de leur dispute, de la reconnaissance d'existence de camps en Union soviétique. Voilà. Mais donc, ce qui est intéressant, nous trompons volontairement, c'est cette idée que la pensée se donne, se livre de manière active. Et à quoi se livre-t-elle? C'est ça la question. Vous évoquiez que c'était une question presque d'une croyance religieuse. Georges Sorel avait un concept, j'aimais bien, même s'il est assez souffreux comme philosophe, il parlait des mythes politiques comme d'images mobilisatrices qui mettent en mouvement. Et en effet, le Parti communiste, fort de l'implantation des communistes dans la résistance, au lendemain de la guerre, a cette capacité. Il apparaît comme l'acteur qui est capable de mettre en mouvement la révolution. Et donc, c'était pas uniquement des mensonges. Il y avait quelque chose, il y avait une construction d'histoire. Il y avait et ce qui est intéressant...
28% communiste. Voilà, il y avait
une force
politique,
une force sociale gigantesque. Et donc, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est essayer de comprendre, parce que ça a des incidences aujourd'hui, sur cette question de l'engagement. Aujourd'hui, nous sommes aussi confrontés à des nations qui commettent des crimes auxquels nous sommes attachés.
Vous parlez des nations, pas des crimes auxquels nous sommes attachés.
Voilà. Mais oui, il y a des événements qui surviennent, qui mettent en cause l'idée que nous nous faisions même quasiment de l'histoire du XXe siècle. Et donc tout ça se chamboule et on voit combien c'est difficile d'articuler les choses. Et combien certains, par exemple, vont construire une réalité ad hoc en fonction des événements qui surviennent. D'autres vont construire une autre réalité. Et donc je trouve que c'est intéressant dans la formule de De Santi, c'est cette idée de la pensée qui se construit sa propre captivité. Et ça, c'est Hannah Arendt dira un peu la même chose, c'est que il y avait dans le totalitarisme, c'était nouveau par rapport à la tyrannie ou le despotisme, cet élément intellectuel, cet élément de se rendre captif par la pensée de la soumission, pas uniquement dire j'obéis, c'est bon, j'explique et par raison, je donne les raisons de mon obéissance et je fonde en raison mon obéissance. Et ça met en jeu aussi la philosophie et le pouvoir de la raison.
Ces nations auxquelles nous sommes attachés, avez-vous dit, qui commettent des crimes, nous voyons que c'est difficile. Et donc je voudrais quand même vous demander si... Enfin, juste vous faire remarquer ou connaître votre avis sur ce point. C'est dur pour nous de juger tous ces gens, non ? Des années 1940, 50. Évidemment qu'il aurait fallu sortir du PC bien avant 1956. Mais le Parti communiste français a récupéré un certain héroïsme de la résistance, une résistance communiste avérée contre le nazisme. C'est à la fois, il y a une évidence, Martin Levrault, pour nous, aujourd'hui. Mais est-ce que nous faisons mieux qu'avec nos problèmes ?
Je ne sais pas si on fait mieux, mais je trouve que la question n'est pas uniquement morale, c'est-à-dire, en effet, c'est toujours une audace un petit peu à dire nous, on aurait mieux jugé, nous, maintenant, nous qui savons rétrospectivement que Staline était quand même un monstre historique, nous n'aurions pas donné notre croyance. Donc il y a certainement peut-être une forme de naïveté à croire qu'on aurait fait mieux que les autres et que c'est des grands esprits. Mais au-delà de la question morale, moi j'ai l'impression que ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est que ça engage la philosophie, ça engage qu'est-ce que c'est que l'histoire, et aussi l'idée que ces philosophes, ils se disputent les uns et les autres, non seulement sur la question de l'identité, qu'est-ce que c'est que l'URSS, qu'est-ce que c'est que cette aventure, mais qu'est-ce que c'est qu'agir. Il l'a bien dit, Dussenti, dans l'ouverture, c'est pour ça que je m'attache. Dussenti est un des rares à avoir été totalement stalinien, et en même temps, avoir essayé, à la différence de Sartre et d'autres, d'avoir essayé de rendre compte de cet égarement ou de cette participation, et d'en rendre compte de manière intelligente. Et il disait dans l'extrait que vous citiez, cette aventure pose la question de notre adhérence à la vie, de notre participation à l'histoire. Est-ce que nous sommes les spectateurs de l'histoire et qui distribuons des jugements, ou est-ce que nous sommes toujours pris par par nos identités, par nos appartenances, et comment est-ce que on fait avec ces éléments, avec cette adhérence, comment est-ce qu'on produit quelque chose qui est capable à la fois de nous mettre en mouvement sans produire de la soumission. Ça, c'est à mon avis la question, je dirais, politique, qui est presque, à mon avis, aussi intéressante que la question morale. Est-ce que on est fondé à juger tous ces philosophes qui ont donné leur foi au Parti communiste à un moment où le Parti communiste et le stalinisme faisaient rage?
On va évoquer la querelle au temps moderne, après la publication d'un article en plusieurs morceaux, d'ailleurs assez volumineux, de Sartre, « Les communistes et la paix ». Vous nous expliquerez, Martin Legros, ce qu'il y avait dans cet article pour que ça ait rendu si tellement en colère Maurice Merleau-Ponty et Claude Lefort. Mais je vous propose d'abord, pour introduire ce sujet, d'écouter Maurice Merleau-Ponty évoquer cette querelle en 1959 sur France 3 nationale.
À ce moment-là, dans l'esprit du public qui lisait Les Temps modernes au moins, j'étais beaucoup plus près des communistes que Sartre. Et au contraire, dans la seconde période, pendant que Sartre se rapprochait de moi, j'ai été au contraire amené à penser que l'on ne pouvait pas se rapprocher d'eux pour des raisons simplement négatives. Au fond, il me semble que ce que Sartre ne voulait pas, c'est que la classe ouvrière fût mise hors circuit. Et d'autre part, ce qu'il ne pouvait pas accepter, c'est que l'on préféra le système occidental au système russe. Mais tout cela était négatif. Voyez-vous, c'était deux négations, en somme. Et toute la critique à laquelle il se livrait, à laquelle Les Temps modernes se livraient, se livre de la société occidentale, je suis absolument d'accord sur toute cette critique. Seulement, tout dépend de la valeur que l'on donne en regard à la société rivale, à l'autre société. Question que Sartre ne posait guère. Il exerçait son activité critique surtout, faute de documents d'ailleurs, il ne l'exerçait guère que sur le monde occidental. Ce qui ne me paraissait pas une raison suffisante pour prendre parti en faveur de l'autre monde, qui est pour nous à peu près un inconnu, il est un peu moins maintenant, mais enfin il l'était à ce moment-là tout à fait. C'est ainsi que nous nous sommes quittés en tant que collaborateurs des Temps modernes, bien que nous soyons, bien entendu, restés les amis que nous étions.
Vous avez tiqué là, Martin Legros, ils ne sont pas restés tellement amis. Vous pouvez nous rappeler un tout petit peu les éléments de cette querelle à partir de cet article de Sartre, s'il vous plaît?
Oui, alors, pour aller très rapidement, c'est donc des amis qui sont connus à l'école normale supérieure, qui ont passé la guerre ensemble, qui fondent au lendemain de la guerre en 1945, avec, pas uniquement à gauche, il y avait Raymond Aron, etc. C'était l'idée de refonder quelque chose dans les temps modernes, en 45. Et à l'époque, il faut dire que Sartre était dans les années 30 plutôt un anarchiste. Il avait passé la guerre un petit peu quand même en retrait. Et il était encore plutôt, pas très, comme le dit Merleau-Ponty dans cet extrait, il n'était pas vraiment pro-communiste. Et puis, il faut savoir que dans les années, donc on est dans les années où la guerre froide est en train de se remettre en place. 45, les Russes sont les alliés. 5 ans plus tard, c'est l'Europe est coupée en deux. Donc il y a une transformation, une reconfiguration historique majeure. Et dans le champ philosophique, eh bien Sartre, à un moment donné, qui est devenu après-guerre le philosophe, se faisant passer pour un grand résistant, mais le philosophe de le défenseur de la liberté, une sorte de magie qui exerce un magistère extraordinaire, dans les années 50, va basculer progressivement. Non pas, il va jamais prendre sa carte du Parti communiste, mais il va basculer dans une sorte de proximité. On appelait ça compagnonnage. Il était compagnon de route du Parti communiste. Et il y a un événement en particulier assez étrange, c'est la visite, je crois, dans ces années, au début des années 50, c'est la guerre de Corée qui commence. Et il y a un général américain qui vient en France et le Parti communiste décide de faire une sorte de grande manifestation contre Ridgway, je crois, ce général. Et cette manifestation est un échec. Et donc la question, c'est est-ce que ceux qui sont communistes ou comme à l'époque encore Le Fort, qui a fondé Socialisme aux Barbaries, qui défend un communisme antistalinien, etc., disent, vous voyez, le Parti communiste est en train de perdre, en réalité, sa mainmise sur le prolétariat. Et donc, il y a toute une question théorique qui s'engage sur qu'est-ce que c'est qu'un parti, qu'est-ce que c'est que le Parti communiste en particulier, et faut-il le suivre ou pas. Alors, ce qui est assez assez cocasse dans l'aventure, même si ces textes sont devenus un peu indigestes avec la distance historique, c'est que Sartre donc va s'engager sans jamais prendre la carte du Parti communiste en disant le Parti communiste c'est l'incarnation du prolétariat et aller contre le Parti, tous les anticommunistes sont des salauds ou des traîtres, moi qui n'en suis pas et vous devriez en être. Donc c'est bien lui, mais il va surtout, c'est ça qui va intéresser Merleau-Ponty, qui reste intéressant philosophiquement, il va, dans cet engagement au bénéfice du Parti communiste, mobiliser, en tout cas, s'approprier le marxisme et faire une lecture sartrienne du marxisme. Et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, qui reste de cette aventure, au-delà d'un déchirement, c'est quand même, Sartre s'est déchiré pour des raisons politiques quasiment avec tous ses amis, Camus, Aron, Merleau-Ponty, tous, c'est quand même terrible, on a des amis, imaginez, s'en séparer, je sais pas, sur un désaccord politique, c'est quand même un peu dommage, mais au-delà de la querelle de personnes, il y a une querelle philosophique qui est hyper intéressante et où une partie de la philosophie politique française de ces années-là s'est nourrie. Lyotard, Rancière, tout cela sont les enfants de cette dispute. Et la dispute porte sur quoi ? C'est que Sartre, à un moment donné, c'est assez fascinant, va raisonner avec les catégories sartriennes, qui sont quand même des catégories assez géniales de cette liberté, de ce sujet qui se fait en se choisissant, en se débarrassant de la situation, de tous les déterminismes qu'il a, il se choisit et il survient dans l'histoire, eh bien, il va transposer ce scénario métaphysique à la politique et faire du Parti communiste ce sujet qui donne au prolétariat qui sans lui n'existe pas une existence politique. Dans ce texte, il dit il a des formules vraiment sartriennes, c'est une sorte de phagocytation du marxisme, le prolétariat se fait lui-même par son action quotidienne. Il n'est qu'en acte, il est acte. S'il cesse d'agir, il se décompose. Mais comment devient-il acteur ? L'ouvrier se fait prolétaire dans la mesure où il refuse son état, c'est-à-dire dans la mesure où il adhère au Parti communiste. Vous voyez
c'est passionnant et vous en parlez extrêmement bien, merci. Est-ce que vous diriez que face à cela, Merleau-Ponty et Lefort, qui sont amis et d'accord, trouvent que justement la dialectique, si chère apparemment à Sartre et à plein de marxistes, ce n'est pas ça, c'est pas l'adhésion comme unique voie possible, c'est au contraire un rapport critique permanent avec le parti, c'est ça la dialectique, c'est que peut-être qu'on ne claque pas totalement et définitivement la porte, mais en tout cas on critique, on dit non, on refuse, on y revient, peut-être un jour on claque la porte, enfin c'est cette mobilité de la dialectique qu'ils ont défendue face à Sartre.
Oui, absolument. Alors, ce qui est amusant, c'est que donc Sartre écrit ce texte « Les communistes et la paix », je crois, en 52. À l'époque, Claude Lefort est plutôt l'élève de Merleau-Ponty. Il est assez jeune, il a 15 ans de moins, et Merleau-Ponty l'a embarqué, et ils sont chez Sartre, dans l'appartement de Sartre, et ils font c'est assez marrant de se dire, ils font le sommaire de chaque numéro avec les gens qui arrivent avec leurs idées, et Claude Lefort dit à ces jeunes, de manière un peu intrépide, dit qu'il est pas du tout d'accord avec cet article de Sartre, et dit, Sartre, il dit, très bien, écrivez-le. Et donc, il se fend d'un article, le marxisme et Sartre, qui est quand même assez véhément, qui est aussi une sorte de leçon un peu, parce que c'est vrai que Sartre traitait un peu, avait une lecture assez superficielle à cette époque-là de l'œuvre de Marx et du marxisme. Donc, donne une petite leçon sur la base de ce que vous venez exactement d'exposer, c'est-à-dire que non seulement le parti, même si Marx n'a pas beaucoup écrit sur les partis politiques, le parti est un lieu où il faut qu'il y ait débat, discussion, rupture. Il faut surtout pas qu'il soit monolithique parce qu'il va se vider de sa substance de pensée, de sa substance de proposition. Mais surtout, l'histoire et la société, le prolétariat lui-même n'est pas un agent unique. Il est composé, il est divers, il est pluriel. Il a une histoire. Il est dans une histoire. Il est dans une société. Il est dans un moment historique. Et c'est tout ça qui nécessite interprétation contre interprétation, en regard duquel Sartre disait il faut le suivre, même quand le parti communiste envoie les ouvriers manifester sur un enjeu politique qui les concerne pas tellement, eh bien, il faut le suivre parce que sinon il est mort. Donc il y a une sorte de question intéressante sur qu'est-ce que c'est que agir. Est-ce qu'à un moment donné c'est suivre les ordres et dire l'appareil a besoin de nous, même dans un camp on va protéger l'appareil. Ça a du sens de dire ça aussi, un appareil politique, ça compte. Ou est-ce que c'est de dire mais à un moment donné si l'appareil n'existe que pour lui-même, eh bien il perd sa raison d'être. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que derrière une discussion sur la nature de l'URSS qui a perdu sa pertinence aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que agir, qu'est-ce que la logique politique et qu'est-ce que c'est que notre appartenance, notre adhérence, comme disait De Santy, à cette aventure.
J'aimerais que l'une et l'autre, l'une spécialiste de Charlotte Delbault, l'autre du couple de Santy, enfin le philosophe et son épouse, vous réagissiez rapidement, parce qu'il nous reste vraiment juste 2 minutes, mais peut-être que ça fait écho. Vous pensez que quelque chose de ce que vient de dire Martin Legros sur les enjeux philosophiques, qui peuvent paraître très théoriques, ces engueulades au temps moderne, il y a quelque chose des affres de Charlotte Delbault, Violangeli, qui rencontre cela?
Sans doute, mais de façon, je pense, moins intellectuelle. C'est-à-dire que la captivité, pour reprendre les mots de Santy, de Delbault par rapport au PC, c'est une captivité affective, c'est une captivité de mémoire, de résistance, de combat ensemble. Et si elle n'a jamais pris parti contre le PC dans ses ouvrages publiés, c'est justement en souvenir de ça, en souvenir de ces moments-là.
Anna Trepeche-Bertholo, il a écrit De Santy, il l'a dit à son épouse et l'entretien est publié. Sans le poids du parti, nous aurions été attentifs, ouverts à ce que disait Arthur Koestler, nous en parlerons nous ici demain, et Merleau-Ponty, nous venons d'en parler. Il le regrette quand même. De ne pas avoir entendu.
Il le regrette, mais surtout il l'explique. Et je crois que c'est vrai qu'il est important de rappeler que les informations, il les avait, surtout à partir du moment où on entre dans la guerre froide. Merleau-Ponty publie « Humanisme et terreur » en 1947, Raymond Aron « Le grand schisme » en 1948. On entre à partir du jdanovisme dans cette guerre intellectuelle. Tous les éléments, il pouvait les avoir, sauf que, en effet, Jean Toussaint de Santy explique bien comment il se rend captif d'un régime de croyance. En 1948, un petit peu malgré lui, il s'engage dans la fondation d'une revue intellectuelle qui s'appelle La Nouvelle Critique et qui le lie au parti. Et donc, sa réflexion philosophique est liée à à son engagement, mais
encore tout à fait entier à ce moment-là.
Qu'il met un petit peu de temps à se désengager puisqu'il ne quitte la rédaction qu'en 1958.
Merci beaucoup à tous les trois, Anna Trespech-Bertolo, Violaine Gély, Martin Legros. C'est une discussion très riche que nous avons eue. Évidemment, on pourrait continuer toute la matinée. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Aujourd'hui, il se demande comment doit-on parler des autres. Voici le pourquoi du comment.
Comment doit-on parler des autres ? Le langage n'est pas une partie superficielle de la vie humaine. Le fait de parler, le fait de dire, a des fondements et a des effets. Dire n'importe quoi n'est pas possible, d'abord pour des raisons logiques, c'est la question de la contradiction, mais aussi pour des raisons éthiques, c'est la question de l'interdit en général. Mais il y a une dimension peut-être pas secondaire, peut-être en fait même originaire, de se dire qu'on ne peut pas utiliser de n'importe quelle façon parce qu'il a des effets, c'est se dire entre nous. Bien sûr, l'interdire, beaucoup de philosophes ont réfléchi sur interdire, cela vient entre les êtres humains, mais on a l'impression pour l'interdit qu'il s'agit d'une loi générale qui surgit d'abord des actes pas forcément linguistiques, entre les êtres humains. Si par exemple il y a un meurtre, on va l'interdire. Le meurtre lui-même n'est pas toujours opérer avec du langage. Il s'opère avec un couteau, il s'opère avec des bombes, il s'opère malheureusement de mille et mille façons non linguistiques, extra-linguistiques, et le langage est d'abord le cri qui vient exprimer cet interdit. Mais il y a aussi dans le langage lui-même, entre les êtres humains, une faculté de faire du mal dont on sait qu'elle peut aller extrêmement loin et qui porte même justement à des dimensions, on pourrait dire presque métaphysiques. C'est le fait de dire mal d'autrui, de dire qui peut aller jusqu'à maudire. Le dire peut devenir destructeur en tant que tel entre les êtres humains. Mais dire d'autrui, dire du mal d'autrui est sans doute aujourd'hui, avec à la fois la libération de la parole sur les réseaux sociaux, mais aussi les mauvais exemples donnés par les autorités morales et politiques supposées elles-mêmes, dont le pouvoir est un pouvoir de mal dire, un pouvoir de dire du mal de quelqu'un. Ce pouvoir de dire du mal de quelqu'un devient un pouvoir absolument destructeur. Oui, on a l'impression qu'on peut dire n'importe quoi, de n'importe qui et contre n'importe qui. Calomnier, il en restera toujours quelque chose, disait déjà Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Vous pouvez inventer, dire n'importe quoi, dire qu'un tel ou une telle a fait ceci ou cela. C'est faux. Cela sera jugé si des institutions existent et les jugements, heureusement, la justice peut être saisie sur des calomnies ou sur des appels à la haine, sur des incitations par le langage, détruire des catégories entières d'êtres humains, car on peut dire du mal non seulement d'un individu, mais d'une catégorie d'êtres humains. Pourquoi pas dire du mal des femmes, dire du mal d'une catégorie religieuse, d'un groupe social, quel qu'il soit, dire du mal qui entraîne évidemment le faire du mal. Le médire entraîne le méfaire, et peut-être que dire c'est faire, comme le dit un philosophe anglo-saxon célèbre, Austin, mais mal dire, c'est aussi conduire à mal faire. C'est pourquoi il y a des limites à la liberté d'expression. Ces limites qui ne sont pas évidemment dans la calomnie ordinaire, vous pouvez toujours dire du mal de vos amis, je vous rassure. Mais en revanche, il y a un certain fait de dire du mal qui doit être lui-même interdit. Oui, il y a des appels à la haine qui font l'objet, parce que ce sont des actes de limite légale, et les conditions des limites au fait de dire n'importe quoi permettent de dire tout ce que l'on peut et ce que l'on veut dire aux uns et aux autres, y compris effectivement critiquer. La critique est permise par l'interdit parce qu'elle ne tombe pas dans la malédiction ou dans le médire qui est lui-même une destruction de la vie humaine.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique d'Aliya. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.